les amphis d'Amicus.
Dans cette édition spéciale, les étudiants de Master 2 de l'Université Paris Panthéon-Assas prennent la parole et partagent leur regard sur des questions juridiques actuelles autour du micro d'Amicus Radio. Aujourd'hui, Lucie Lavaux nous parle de la Cour de justice de la République. Épisode 1, l'histoire de la CJR.
Bonjour à tous. Il y a plus de 30 ans, la Cour de justice de la République, la CJR, était créée avec pour ambition de restaurer la confiance des citoyens en leurs responsables politiques grandement affaiblis à la fin du XXe siècle par des affaires politico-financières. Au lendemain du procès de l'actuel ministre de la Justice et garde des Sceaux devant une CJR plus que jamais décriée, un bilan s'imposait. L'article 68-1 de la Constitution dispose dans ses deux premiers alinéas que les membres du gouvernement sont pénalement responsables des actes accomplis dans l'exercice de leurs fonctions et qualifiés crimes ou délits au moment où ils ont été commis. Ils sont jugés par la Cour de justice de la République. Étudier la CJR, c'est étudier la responsabilité pénale des membres du gouvernement. Le principe de responsabilité est inhérent à notre système de démocratie représentative. Le peuple, souverain, confie l'exercice du pouvoir à ses représentants qui, en échange, devront en rendre compte devant le citoyen. La responsabilité est la première dette du pouvoir, comme l'affirmait Guy Carcassonne. Classiquement, sont distinguées la responsabilité politique et la responsabilité pénale des dirigeants. La première est bien connue du régime parlementaire. Les membres du gouvernement sont responsables devant l'Assemblée nationale, soit à l'initiative du gouvernement, c'est la question de confiance, soit à l'initiative des députés, c'est la motion de censure. L'ultime sanction est alors la perte de pouvoir. Mais la responsabilité qui nous importe, ici, dans l'étude de la CJR, est bien la responsabilité pénale. Cette dernière se rapporte aux infractions commises par nos dirigeants dans l'exercice de leurs fonctions et qui, conformément au principe d'égalité de tous devant la loi, doivent être sanctionnées. Étudier la CJR, c'est encore concentrer sa réflexion sur la responsabilité pénale des membres du gouvernement, c'est-à-dire le Premier ministre, les ministres et les secrétaires d'État, et ainsi mettre de côté celle du président de la République. En effet, la responsabilité pénale du chef de l'État est traitée à l'article 68 de la Constitution. Il n'est responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions qu'en cas de haute trahison et relève alors de la compétence de la haute cour composée de parlementaires. Dans cette série de 5 épisodes, il s'agira de revenir sur la création de la Cour de justice de la République, son fonctionnement, les affaires qu'elle a eu à connaître avant d'y voir une institution critiquée, à l'avenir incertain. Nous remercions Madame le professeur Cécile Guérin-Bargue pour avoir supervisé l'ensemble de notre travail. Comment la CJR est-elle née? C'est la question à laquelle ce premier épisode entend répondre. La notion même de la responsabilité pénale des membres du gouvernement n'est pas évidente et soulève bon nombre d'interrogations. D'un côté se trouve l'exigence constitutionnelle de séparation des pouvoirs, présentée comme la clé de voûte de notre démocratie par les révolutionnaires de 1789, à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Il faut que le pouvoir arrête le pouvoir, pour reprendre la formule de Montesquieu. Ainsi, chaque pouvoir doit être exercé par des organes différents et clairement identifiés, et chaque pouvoir s'inscrit dans un champ de compétences différent et clairement identifié. Or, permettre à nos juridictions de droit commun, de juger nos gouvernants pour des infractions commises au cours de leurs fonctions, n'est-ce pas permettre aux magistrats de trancher des questions d'opportunité politique et ainsi méconnaître la séparation des pouvoirs? Et d'un autre côté, se trouve l'exigence fondamentale de l'état de droit qui veut que tout citoyen soit soumis également à la loi, y compris ce qui la crée. Les infractions commises par nos gouvernants doivent être punies, ces derniers n'étant pas démis de leur qualité de justiciable au cours de leurs fonctions. Il en va ainsi de la confiance du citoyen dans ses institutions politiques. Pierre angulaire du pacte social, la confiance ne saurait être acquise par la simple élection et peut aisément laisser place à la désillusion, rancœur et défiance à l'égard du politique. Autant de sentiments palpables, dans l'époque actuelle, qu'Alain Bachung a pu exprimer dans sa chanson « Résident de la République », extrait de son dernier album « Bleu pétrole », sorti en 2008.
Je suis pas.
un jour je t'aimerai moins. Jusqu'au jour où je ne t'aimerai plus. Un jour je sourirai moins. Jusqu'au jour où je ne sourirai plus. Un jour je parlerai moins. Jusqu'au jour où je ne parlerai plus. Un jour je courirai moins. Jusqu'au jour où je ne courirai plus. Hier on se regardait à peine. C'est à peine si l'on se penchait. Aujourd'hui nos regards sont suspendus. Président, résident de la République, où le rose a des reflets bleus. Président, résident de la République, des atomes faits.
Plutôt que de déclarer compétentes les juridictions pénales de droit commun, compétentes pour connaître des infractions commises par tout un chacun, ont été instituées des juridictions pénales d'exception, chargées de connaître spécifiquement et uniquement de la responsabilité pénale des gouvernants. On parle ainsi de privilège de juridiction ou d'immunité de juridiction pour désigner le droit donné aux personnes ainsi jugées de comparaître devant une juridiction autre que celle que désignent les règles procédurales de droit commun. Ainsi, les constituants de 1791 avaient-ils introduit dans leur constitution une haute cour nationale, compétente pour connaître des délits des ministres et agents principaux du pouvoir exécutif et des crimes qui portaient atteinte à la sûreté générale de l'État, haute cour qui se maintiendra sous le Premier Empire. Sous la Restauration et la Monarchie de Juillet, la Chambre des Pairs, réunie en cour des pairs, est dotée du pouvoir juridictionnel pour juger les crimes de haute trahison et des atteintes à la sûreté de l'État. Puis, sous la Seconde République, la Haute Cour de justice est instituée. Elle se réunissait sur les accusations portées par l'Assemblée nationale. Elle se maintient sous le Second Empire. Sous la Troisième République, c'est le Sénat, réuni en Cour de justice, qui sera aussi bien compétent pour juger le crime de haute trahison du président de la République que les crimes des ministres commis dans leurs fonctions. Au sortir de la Seconde Guerre mondiale, la Haute Cour de justice est créée par le gouvernement provisoire. Elle est reprise dans la Constitution de 1946 et la Constitution de 1958 la maintient à l'article 68 pour juger à la fois des crimes de haute trahison du président de la République et des crimes et délits commis par les membres du gouvernement dans l'exercice de leurs fonctions. En 1958, la Haute Cour de justice est donc composée de 24 parlementaires, la moitié étant élue par le Sénat et l'autre par l'Assemblée nationale. Les ministres y étaient déférés par un vote identique des deux chambres. Cependant, la Haute Cour de justice s'est rapidement heurtée à d'importants reproches. Beaucoup y voyaient une juridiction obéissant à des considérations exclusivement politiques, en témoignaient sa composition, mais aussi l'impossibilité pour les citoyens de la saisir et la différence marquée avec les règles de procédure de droit commun. Il convient ici de préciser que la Haute Cour de justice, bien que sa commission d'instruction ait été saisie 10 fois entre 1980 et 1992, ne s'est jamais réunie. Or, dans le contexte de la fin du XXe siècle, où se multiplient les affaires politico-financières impliquant nos gouvernants, cette ineffectivité de la Haute Cour de justice laissait penser aux citoyens que ces mêmes gouvernants n'avaient pas à répondre de leurs actes comme tout un chacun. Et c'est un scandale en particulier qui décida la réforme constitutionnelle de la responsabilité pénale des membres du gouvernement. L'affaire du sang contaminé. Entre 1984 et 1985, des patients hémophiles ont reçu par transfusion des poches de sang contaminées par le virus du sida. L'opinion publique s'émut vivement de cette tragédie et il devint rapidement nécessaire de dénouer l'écheveau des responsabilités. Mais après la mise en accusation de 3 ministres pour des faits de mise en danger de la vie d'autrui, la commission d'instruction saisie prononça un non-lieu, pour cause de prescription, le sentiment insupportable d'impunité des gouvernants se répandit naturellement et avec force dans l'opinion publique. Sur impulsion du président de la République de l'époque, François Mitterrand, le gouvernement ainsi que le comité consultatif pour la révision de la Constitution, présidé par Georges Védel, ont préparé un projet de loi constitutionnelle destiné notamment à créer une nouvelle juridiction d'exception chargée de se prononcer uniquement sur la responsabilité pénale des membres du gouvernement pour les crimes et délits commis dans l'exercice de leurs fonctions. Malgré la cohabitation intervenue en mars 1993, ont été adoptées la loi constitutionnelle du 27 juillet 1993, suivie et précisée par la loi organique du 23 novembre 1993. La Cour de justice de la République était née. Merci de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, Alice nous parlera de la compétence et du fonctionnement de la Cour de justice de la République.
Cet épisode des Amphis a été produit par Amicus Radio, avec le soutien de la Fondation Panthéon Assas, qui encourage et valorise l'entrepreneuriat étudiant. Merci à la professeure Cécile Chenet et à Aubin Jupin pour leur aide précieuse dans la coordination de ce projet. N'oubliez pas de vous abonner et de suivre Amicus Radio sur les réseaux sociaux.